Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le, pas vendredi, mais jeudi 27 avril 2023. Vous écoutez votre podcast préféré number one sur Apple Podcasts, le café de l'e-commerce, LCDE, saison 4, épisode 154. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien.
Bonjour à tous, le café de l'e-commerce, c'est votre podcast favori que vous écoutez tranquillement en train de ne rien faire d'autre.
Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre douce, incisif mais jamais méchant, copié mais jamais égalé.
Le café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles.
Au sommaire de cette émission, eh bien, tout ce qui se passe dans l'écosystème e-commerce, tout ce que vous avez loupé, eh bien, on est là pour vous le raconter.
Et comme à chaque émission, on terminera avec du fun dans la rubrique panier surprise. Laetitia,
Adrien,
prêt,
synchronisation des montres. Charrette, buzzy, pas le temps, nez dans le guidon, la tête sous l'eau, vous n'avez pas eu le temps de faire votre veille e-commerce? Eh bien, la rubrique News Simple et Funky est là pour vous sauver. On a listé tout ce qui s'est passé cette semaine, de l'actualité chaude, intéressante à ne pas louper, mais aussi fun et parfois what the fuck. Vous trouverez le détail de ces informations dans la description de l'épisode.
On apprend que le temps passé sur Instagram a augmenté de plus de 24% depuis le lancement des Reels sur la plateforme. C'est grâce notamment à ces recommandations qui sont basées sur l'IA. C'est une copie directe de ce que propose TikTok. Bien que Reels et les recommandations basées sur l'IA stimulent l'engagement sur Instagram, cela, pour le moment, ne se traduit pas encore directement par des revenus supplémentaires, on attend. Mais bon, Meta a reconnu que Reels cannibalise en partie les revenus des stories et des publications basées sur le fil d'actualité, parce qu'elles occupent une part importante du temps que les utilisateurs auraient consacré à ce contenu. Donc, ils sont en train de revoir un petit peu leur copie, leur modèle de pub pour pouvoir rentabiliser encore mieux ces Reels.
Le géant de la mode en ligne chinois Shein prévoit d'investir 60 millions de dollars dans sa chaîne d'approvisionnement au cours des 5 prochaines années. L'objectif de cet investissement, eh bien, c'est toujours l'efficacité, la durabilité et la transparence, non pas de ses produits, mais de ses opérations. Cette initiative fait suite à des critiques concernant les conditions de travail et l'impact environnemental de l'entreprise. On ne comprend pas trop comment est-ce que... Enfin, la réaction de Shein, ça ne rendra pas Shein plus propre.
Alltrics, spécialiste français du vélo et du running, ouvre son 7e magasin à Chambourcy dans les Yvelines. Ce nouveau point de vente de 700 m² proposera des produits pour les cyclistes, les coureurs et les triathlètes. L'entreprise poursuit ainsi son expansion, développe son omnicanal et renforce sa présence sur le marché français.
Klarna, la plateforme de paiement et de shopping que j'adore et que j'adorais plutôt, a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour offrir une expérience d'achat plus personnalisée à ses utilisateurs. Concrètement, ça se traduit par quoi? Bah, des nouveautés. On retrouve Ask Klarna, qui est un quoi, à votre avis? Un assistant shopping personnel avec de véritables experts en mode. Ça se traduit aussi par Creator Shops. Ce sont des boutiques personnalisées pour les créateurs de contenu. Également, eh bien, ça se traduit par un flux de découverte shopping basé sur l'intelligence artificielle et une fonctionnalité de revente. Ces fonctionnalités sont déployées progressivement dans certains endroits du globe, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne, tandis que Klarna poursuit sa transition d'une simple plateforme de acheter maintenant, payer plus tard vers une destination de shopping globale pour ses 150 millions d'utilisateurs.
L'Europe dévoile les très grandes plateformes qui seront soumises au DSA dès cet été. Le règlement européen sur les services numériques vise à encadrer les contenus publiés sur les réseaux sociaux et les produits vendus par les sites marchands. Alors, pour rappel, le DSA pour ces plateformes, et je vais te les lister très rapidement, il instaure un cadre et il impose de respecter des nouvelles obligations en matière de modération des contenus haineux ou illégaux, de désinformation. Les marketplaces devront contrôler l'identité des vendeurs, ne plus recourir aux dark patterns manipulant l'utilisateur, et toute publicité à destination des mineurs ou liée à des critères ethniques, religieux ou sexuels sera interdite. Tout ça, c'est à compter de fin août 2023. Alors, je te lis, je te fais rapidement la liste de ces 19 sociétés. AliExpress, Amazon, l'App Store, Bing, Booking, Facebook, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipédia, YouTube et Zalando.
Eh ben, ça fait un sacré paquet de boutiques, ça, et de plateformes. Hein. Here comes the money. Les levées de fonds et les rachats de la semaine.
Values rachète Fashion Data. Ce sont deux entreprises qui appartiennent à la Galette Immobilier. Elles regroupent de nombreuses enseignes françaises. Enfin, la Galette Immobilier, c'est de nombreuses enseignes françaises. Tu as du Boulanger, Leroy Merlin, Auchan, Decathlon, Jules, etc. Cette fusion ou cette union, elle va permettre d'unifier les données pour monétiser celles-ci auprès des annonceurs. Le groupe a créé la structure Ad Retail pour mutualiser les données de ses enseignes et proposer des campagnes publicitaires ciblées. Cette initiative vise à optimiser la valeur de ces données et à renforcer la compétitivité face aux géants du e-commerce. Je trouve ça très très smart que la Galaxie Mulier se mette ensemble et collecte, rentabilise ou monétise toute son audience.
Vertigo vient de lever 2,5 millions d'euros. La start-up française spécialisée dans l'intelligence artificielle pour l'e-commerce et le retail vient de lever beaucoup d'argent. Un des use cases, c'est anticiper les pics de commandes pour optimiser les préparations de commandes en entrepôt, affiner la stratégie de pricing et déterminer le meilleur assortiment pour votre stratégie omnicanal. La news what the fuck de la semaine. Quelle est-elle, Adrien ?
Ouais, la news what the fuck, c'est Meta qui dépasse les attentes en termes de revenus et qui confirme son engagement envers le métavers. Alors, je te fais deux citations.
Contre toute attente.
Je te fais deux citations, ça te faire sourire, de ton copain Marc. Un récit s'est développé selon lequel nous nous éloignerions d'un focus sur le métavers. Donc, je veux simplement dire d'emblée que ce n'est pas exact. Nous nous sommes concentrés sur l'IA et le métavers et nous continuons à le faire. Et deuxième citation, construire le métavers est un projet à long terme, mais la logique qui le sous-tend reste la même et nous restons engagés envers celui-ci, envers le métavers. Donc c'est amusant parce que du coup, il va continuer à investir dessus, mais il commence à associer le métavers à l'IA. Il ne peut pas réussir le métavers sans IA et donc ça justifie également que sa stratégie, il est toujours dans le bon. Donc je trouve ça très amusant.
Ou dans le flou, on ne sait pas trop. La news inutile dont on s'en balèque.
Je trouve ça étonnant qu'en avril 2023, on retrouve encore des articles qui parlent de ça. Mais écoute, c'est une étude qui te montre que plus de la moitié des achats des Français se font sur smartphone. Je pensais que ça y est, on avait passé le cap et qu'il n'y a plus besoin de parler de ça. Mais non, alors je t'ai gagné 2-3 chiffres amusants. 53% des consommateurs utilisent fréquemment leur mobile pour effectuer des achats en ligne, tandis que 44% préfèrent utiliser un ordinateur. Et du coup, ceux qui utilisent plutôt l'ordinateur, c'est pour faire quoi ? Comparer les prix. 57%, consulter des avis utilisateurs, 48%, obtenir des infos supplémentaires, 54%, et avoir le support client pour 54%, voire finaliser l'achat pour 49%. 60% de ceux qui ont répondu privilégient le smartphone pour le suivi et la livraison de produits. Vous avez un paquet d'autres chiffres, mais bon, pour moi, ça fait déjà quelques années que le smartphone, donc en termes de visite, il est au-dessus du desktop, et là, c'est en termes d'achat. Donc, de toute façon, quand tu fais ton site, c'est toujours avoir le smartphone en tête.
Mais est-ce que tu crois d'ailleurs qu'en agence, on continue à employer les termes responsive design et mobile first?
En agence, je ne sais pas, mais je suis surpris de voir également qu'avec certaines enseignes, marques, etc., quand ils font des screenshots sur leur PowerPoint ou quand on fait des démos de leur du site, on est principalement sur le desktop. C'est encore en train de changer. Du coup, les personnes connaissent. J'étais aussi étonné de voir que beaucoup de personnes connaissent la fonctionnalité dans Google Chrome, qui n'est pas si évidente que ça, aller dans le développeur tool et puis sélectionner le mobile. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Donc ça se démocratise. Mais bon, voilà, pour moi, c'est un non-sujet. Laetitia, qu'est-ce qui s'est passé chez toi ? Et je crois que tu veux nous parler d'un nouveau commentaire qu'on a reçu. Donc, tu es très contente. Merci encore à tous ceux qui nous laissent des commentaires et qui 5 étoiles sur Apple Podcast.
Eh bien, on a un nouveau message d'un auditeur. Il s'appelle Kevin. On imagine que c'est Kevin. Alors, il a écrit K-H-E et 20. Bravo, c'est un joli jeu de mots. L'incontournable LCDE, c'est le podcast incontournable de l'actualité chaude et froide du e-commerce. Un must listen pour tout professionnel du commerce en France. Merci Kevin, merci beaucoup. Tu sais que ça me touche, voire même personnellement. J'adore quand on laisse des notes sur Apple Podcast et en plus avec un commentaire.
Merci beaucoup Kevin.
Adrien, ton côté ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Des mots doux aussi sur
non,
Apple Podcast
non,
pour
pas
toi ?
De... Bon, en général, c'est les mails de critique que je reçois. Non, je plaisante. Non, rien du tout. On prépare là les prochaines semaines. Le mois de mai va être assez rempli. Donc, j'en parle pas trop, mais il y aura pas mal d'annonces dans les prochaines semaines. Par contre, ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'on vous laisse pas tout seul pendant ces vacances. Ces prochaines semaines, il y aura un petit ralentissement en termes d'épisodes, mais on a quelques épisodes en stock qu'on va publier. Et on a notamment un épisode spécial autour de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il est très sympa. On a hâte d'avoir vos retours. Donc là, je crois que les deux prochains épisodes, ça sera deux ou trois prochains épisodes, ils seront spéciaux. Et ensuite, on reprend en mai tranquillement avec l'actualité hebdomadaire.
Et écoutez bien cet épisode spécial, il y a plein de surprises. Breaking news, les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi, on en parle, on en débat et le tout sans langue de bois. Adrien, quelle est la breaking news de la semaine?
Bah écoute, cette semaine, on apprend que Temu se lance en Europe et arrive officiellement en France. Ça fait depuis quelques mois qu'on en parle. En septembre, ils étaient arrivés aux États-Unis et se sont classés très rapidement en top des apps shopping devant Amazon. Donc, ils ont vraiment réussi leur pari aux États-Unis. On attendait quand est-ce qu'ils allaient arriver en Europe. Et bah, c'est chose faite. Ils se lancent en France avec la France, l'Allemagne, l'Italie, la Hollande et l'Espagne et l'Angleterre. Les autres pays suivront. Et je trouvais que c'était assez important. C'est quelque chose qu'il faut surveiller de très près parce que quand on voit comment ils ont réussi à dépasser ou se positionner aux États-Unis alors qu'ils étaient complètement inconnus au bataillon, je pense que c'est une très, très, très grosse news. Et Laetitia, toi, tu as suivi justement Temu, tu suis un peu ce qu'ils font, tu as déjà testé?
Alors non, je n'ai pas testé encore. D'ailleurs, si vous téléchargez l'application n'est pas en français, elle est uniquement en anglais. Ils n'ont pas encore pris la peine de traduire et je crois que ça fait partie de leur plan, c'est de ne pas commencer par traduire, mais plutôt d'arriver avec un vrai plan marketing. Le plan marketing, c'est quoi? C'est être tout discret, un petit lancement en toute discrétion. Pourtant, tout le monde en parle.
Tout le monde en parle. Pourquoi tout le monde en parle?
Pourquoi tout le monde en parle? Bah parce que ça fait partie un petit peu de ces sites comme du AliExpress, du AliExpress, du Wish, du Shein, voilà, qui arrivent avec des prix cassés, des prix bradés. Alors, on ne parle pas de la qualité, mais ici, on parle vraiment du prix, de ce que vous allez payer à la fin et ce que vous allez recevoir à la fin. Dans un contexte inflationniste dans lequel nous sommes, bah, je pense que c'est aussi pour ça qu'on en parle.
Objection. Tu viens de citer justement trois sites chinois qui font exactement la même chose. Pourquoi Temu, il fonctionne et est-ce qu'il y a encore de la place pour un acteur en plus?
Temu, ils n'ont pas, d'intermédiaire. Ils vendent en direct, contrairement aux autres. Et puis, ils s'attaquent à un marché. D'abord, ils sont attaqués au marché américain. Ça a fonctionné. Ils ont fait une pub pour le Super Bowl et bim, ça y est, les downloads n'arrêtaient pas de... Enfin, ça explosait. Puis après, il y a toute la stratégie marketing. Quand vous allez sur le site ou l'application de Temu, ça reprend beaucoup des codes que vous pouvez voir sur du TikTok ou sur du Shein. Il y a une éditorialisation. Il y a un marketing d'influence qui est très très fort sur cette application.
Sur le coût de l'influence, je voulais juste soulever ça parce qu'en faisant mes petites recherches, tu as un paquet d'influenceurs et pas les très très gros, enfin les très très gros aussi, mais je te parle surtout des micro-influenceurs, tu vois, ceux qui ont quelques milliers à quelques dizaines de milliers de followers, et ils te montrent leur boîte mail où tous les jours ils sont contactés par Temu pour venir parler de l'application. Donc en fait, ils sont hyper agressifs et moi je pense que c'est pour ça que tout le monde en parle en fait. Super Bowl certes, mais ça c'est à la limite monsieur et madame tout le monde, mais le coût des micro-influenceurs et d'y aller vraiment à fond et d'aller les payer et de pas lâcher, je trouve que c'est un truc qui paye finalement.
Bah, on oublie de dire un truc, c'est que derrière c'est Pinduoduo. Donc derrière, on a quand même une grosse machine de cash qui s'y connaît parce que c'est le gros spécialiste de l'e-commerce en Chine. Donc voilà, ils mettent les moyens. Mais oui, effectivement, la stratégie de marketing d'influence et ne pas aller sur de très gros influenceurs, mais plutôt sur des nanos et des micros, ça paye parce que ça parle à la ménagère de moins de 50 ans qui est celle qui va dégainer sa carte bleue et qui... surveille le budget.
Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, je le comparais moins à des Alibaba, Chine et Wish, mais je le comparais plus à un TikTok. Mais alors pourquoi? Pas tellement dans ce qu'ils font, parce que tu n'as pas le swipe, etc., mais pour la croissance exponentielle et l'adoption, le taux d'adoption qui est vertigineux. Ils ont réussi à craquer le code ou ils ont trouvé une formule qui marche bien et ils croissent très, très vite.
Pour TikTok, c'est 9 mois, le taux d'adoption et surtout le nombre d'utilisateurs maximum, je crois que c'est un maximum, et là où les compteurs ont explosé, c'est 9 mois. On verra pour Temu en Europe. Après, oui, ça ressemble à du TikTok parce que, comme je te le disais, c'est éditorialisé. On voit l'influence de la publicité. Moi, j'ai regardé un peu comment est-ce qu'ils communiquaient, notamment sur Twitter et aussi sur du TikTok. Et en fait, ça répond à tous les codes. Tu vois, je regardais des trucs de rangement pour les frigos et des choses comme ça. Ils reprennent tous les codes. Donc, c'est des codes de l'ASMR, tu vois, c'est tu tires, tu mets, tu nettoies, tu ranges, ça dure 30 secondes, mais quand tu as besoin de faire du rangement dans ton frigo, tout de suite, ton cerveau te dit oui, ça marche, au lieu d'avoir une fiche produit descriptive, on s'en fout complètement.
Moi, j'ai noté deux points d'attention, de vigilance ou des points un peu peut-être négatifs, mais négatif, c'est un mot fort. Le premier, c'est la mauvaise réputation. Tu vois, toutes les boîtes que tu cites, les Chine et Wish, c'est un peu la poubelle de l'e-commerce et être adossé à ces acteurs-là, ils passent derrière quelque chose qui sent mauvais. Donc, c'est très dur de se démarquer, de montrer que non, on n'est pas pareil. Oui, on vend de Chine, mais on est propre, on a des produits qui sont clean. Et la deuxième chose, c'est la régulation. Et là, c'est plus par rapport à TikTok. En deux secondes, ils peuvent se faire bannir. Alors, c'est pas en deux secondes, mais on va dire, il y a toujours le joug de on est une boîte chinoise et la régulation peut aussi frapper si nos produits ne sont pas compliant, si on fait n'importe quoi avec la donnée client, etc. Tu trouves pas que c'est deux menaces qui sont réelles?
Moi, je pense que oui, effectivement, ça reste bien réel, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même bien armés. Quand tu vas sur le site, bah, tu vois que tu as jusqu'à 90 jours pour rendre tes produits. Bon, est-ce qu'ils vont faire les mêmes erreurs que leurs compatriotes? Bah, je sais pas et j'espère pas, en fait. Est-ce que justement, TikTok a pas essuyé les plâtres pour Timou? Bien évidemment qu'il y aura des plaintes, bien évidemment que tu auras toujours des consommateurs malheureux, mais bah, écoutez, hein, dès lors que vous achetez de la merde, bien évidemment que vous pouvez pas, vous pouvez pas espérer avoir une relation client idéale.
Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais pour à mon sens, ils ont réussi le plus difficile, c'est-à-dire pour une boîte chinoise d'aller percer le marché américain avec tout l'anti-chinois qu'on peut imaginer, ou en tout cas toutes les critiques qu'on pouvait avoir face à des Huawei, des TikTok, etc., des Wish et compagnie. Et maintenant, je vais pas dire que c'est plus facile pour l'Europe, parce que chaque pays est particulier, et puis on a l'Angleterre d'un côté, puis les autres pays européens. Mais on va dire, s'ils ont réussi, s'ils ont l'intelligence de réussir aux États-Unis, j'ai confiance qu'ils vont faire les choses proprement, et notamment par rapport à tout ce qui est législation européenne, tu vois, ils vont pouvoir faire les choses proprement. Bon, peut-être que je m'avance un petit peu, mais moi je suis je pense, tu vois, aujourd'hui on est quoi, on est en avril 2023. Je pense qu'il y a personne qui connaît Timou là dans notre entourage, littéralement personne, et dans 6 mois, peut-être à la fin de l'année, ça sera, ils seront dans le top, allez, l'année prochaine ils sont dans le classement des 10 sites e-commerce les plus visités en France. Là je te mets un
ça, c'est ta prédiction,
c'est ma, bon, qui est toujours. Non, tu crois pas, franchement, tu crois pas?
Si, non, alors, je sais pas si j'y crois. Je pense que là, ils sont sur une belle lancée. Et ça peut s'arrêter aussi à tout moment, parce que, bah, comme on le dit, législation, la question des datas, où vont les datas, où vont toutes ces choses-là. Il suffit d'un bad buzz, il suffit d'une personne ou d'un influenceur qui dit « mais ça, c'est de la merde » et ça y est, c'est fini.
Malheureusement, regarde Wish, ils ont eu plein de bad buzz et continuent à cartonner. Donc malheureusement, j'ai envie de croire ce que tu dis, mais tristement, malheureusement, pas vraiment. C'est le consommateur au final qui décide. Et si tu as les produits qui coûtent pas cher et que tu promets rien, les 90 jours de retour, bah, n'importe qui voit ça, tu te différencies déjà avec les autres acteurs. Bon, en tout cas, on va suivre ça, mais je trouve que c'est un acteur hyper intéressant, parce que tu vois, bah là, en plus, c'est un truc un peu... ils ont d'un côté le côté e-commerce très, très fort, et d'un autre côté, ils sont très, très bons sur le social, sur le marketing. Donc, j'aime bien le positionnement qu'ils ont. C'est quelque chose de super intéressant. Ça doit être ça doit être une boîte hyper intéressante en interne.
Est-ce que tu vas acheter, Adrien, sur Timou?
J'ai déjà acheté sur TikTok, non, sur Timou. J'ai déjà acheté, mais c'était l'année dernière. C'est pour ça que ça m'a surpris, cette news qu'ils ont ouvert en France, parce qu'en fait, ça marchait déjà. Donc, alors, peut-être que c'était... je sais pas, peut-être que j'ai acheté sur un site qui était c'était pas le site français, mais il me semble que depuis septembre c'était déjà ouvert, mais bon, peut-être que j'ai mal vu le truc, mais non, je l'ai déjà utilisé, donc c'est pour ça que c'était le jour où en septembre quand j'ai vu que c'était le numéro 1 aux États-Unis, je me suis
foncé dessus
et j'ai fait un achat. Oui, enfin, normal, satisfait, je sais pas, t'es pas satisfait d'acheter un truc comme ça? Non, rien de plus. Et puis moi, ça me parle pas trop tous ces codes, mais c'est moins pire que un Alibaba par exemple, où ça clignote dans tous les sens. Donc l'UX est quand même un peu retravaillé pour
exactement,
nous pauvres
européens
qui comprenaient rien à tous ces trucs, quoi. Donc c'est rigolo. Et puis un peu un côté Groupon, ou en tout cas, tu vois, plus il y a un certain nombre, et tu as la jauge, combien de personnes ont acheté, etc. Donc écoute, on va suivre ça. Toi, t'as pas encore acheté? Tu vas acheter?
Non, alors moi, j'ai jamais rien acheté déjà sur du AliExpress.
J'étais sûr que t'avais commencé à nous
j'ai
sortir ça
sur
des
Wish
et tout ça, oui. Mais t'achètes sur Amazon, donc voilà.
Oui, voilà. Chine, je l'ai fait une fois, mais c'était dans un cas bien spécifique, voilà. Et j'ai pas porté les produits d'ailleurs. Et bah écoute, est-ce que je le ferai là? Je sais pas. Je suis curieuse quand même, mais en fait j'ai pas de besoin, donc en fait ce genre d'application et ce genre de site marchand te crée des besoins, donc je vais acheter pour consommer et détruire la planète, je ne crois pas, non. Écoutez donc cette rubrique mélodieuse où rime l'IA et connaissances merveilleuses en ces news harmonieuses. Entrez dans la danse et découvrez l'IA dans toute sa nuance. C'est la rubrique IA Commerce.
Cette semaine, Laetitia, j'avais une news assez amusante, parce que là, du coup, ils signent et persistent. C'est Undies qui communique et qui explique qu'ils ont sollicité l'intelligence artificielle pour créer une nouvelle pub. Et ce sont des visuels. Alors, je t'ai mis un lien vers l'article. Je vous ai mis un lien, donc tu pourras retrouver ça facilement. Finalement, il y a une citation qui résume le tout. Je voulais te la lire. Donc, c'est Undies qui explique « Notre métier, c'est aussi d'explorer de nouveaux outils. Nous souhaitions réaliser un shooting sous l'eau pour éviter la traditionnelle photo du mannequin en maillot sur le bord de la piscine ou sur le sable. Or, les prises de vue classiques sous l'eau sont complexes pour bien montrer le produit. Nous avons donc eu l'idée de pouvoir générer des visuels avec l'IA. Un défi excitant, mais aussi challengeant. » Et ce que je trouve intéressant, donc ils t'expliquent qu'ils utilisent Midjourney, etc. Vous découvrez l'outil. L'article est plutôt sympa, parce qu'ils expliquent vraiment le process et tout ce qu'ils font. Ils expliquent, mais vraiment sans aucune once, et je trouve ça vraiment bien. C'est tout aujourd'hui, nos équipes utilisent ChatGPT tout comme nos clients. Tu vois, ça, je trouve que c'est de la punchline. Et la manière élégante, c'est pour ça que j'ai voulu garder cet article-là, c'est qu'ils utilisent des vrais shootings, des vrais mannequins, habillés en vert, etc. Et puis ensuite, ils utilisent l'IA pour un peu retravailler. On est un peu comme dans le cinéma, je trouve. Mais donc, on n'est pas full IA. C'est une manière un peu hybride. Est-ce que c'est ça la réponse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant.
Bah, en tout cas, on a la preuve que les mannequins ne disparaissent pas finalement.
Mais
parce
pas
que
encore. Pas encore.
Quand même un studio.
Ouais, mais pas encore. On reparle dans 6 mois à la vitesse où ils vont, on va voir. Tu vois. Mais bon. J'en sais pas.
Après, on peut saluer l'honnêteté ouais. d'Andy's, de dire, nous, notre équipe, elle utilise l'IA comme nos consommateurs. Et...
Mais c'est peut-être les gens derrière qui disent pas, tu vois, c'est le photographe, etc., c'est de trucs. Mais bon, on va pas reparler de ce débat. Le débat, on l'a la semaine prochaine, justement, sur l'IA.
Amazon, qu'on aime ou qu'on déteste, qu'on l'utilise ou qu'on le contourne, par conviction, par passion ou par dépit, Amazon est un acteur e-commerce incontournable. L'Amazon décrypte l'actu du géant américain. Adrien, qu'est-ce que tu as repéré dans ton radar Amazon ?
Alors, j'avais une news, c'est Amazon qui invite les marques à rejoindre un groupe anti-contrefaçon. Et je trouvais pareil, c'est ce genre d'initiative auquel je crois beaucoup. C'est l'union du marché, de l'écosystème, parce que c'est pas juste Amazon, mais c'est Amazon et les partenaires, mais même qui utilisent ou pas Amazon. Qui se mettent ensemble pour aller détecter les marboulins, comme dirait notre copain Olivier. C'est quoi l'idée ? C'est de créer un groupe, l'ACX, Anti-Counterfeiting Exchange, qui va permettre de lutter contre les produits contrefaits sur les plateformes e-commerce. Et en fait, c'est une collaboration entre les marques le législateur et l'écosystème au sens large. Et l'idée, c'est de détecter des patterns, détecter des personnes qui font des choses malhonnêtes et d'avoir une sorte de collaboration. Alors tu vois, ils n'entrent pas trop dans le détail. Est-ce que c'est une base de données dans laquelle il y aura des informations privées ? Je ne sais pas, je n'ai pas réussi à trouver. Mais en tout cas, on peut déjà mettre les produits qui sont contrefaits, les noms des faussaires, les techniques qu'ils utilisent, etc. Donc c'est une collaboration, je trouve ça super intéressant. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a presque un peu plus de 3 ans, en 2020, Amazon lançait une équipe, tu vois, d'experts, de détectives privés. C'était l'Amazon Anti-Counterfeit Crime Unit. Et c'était un peu tout des anciens... justement des anciens policiers, des anciens avocats ou je ne sais pas quoi. Et puis, ils étaient là pour combattre sur Amazon toutes les arnaques. Donc là, ils s'ouvrent un petit peu plus. Donc, je trouvais ça intéressant et je vais continuer à suivre ça parce que là, c'est un sujet qui est...
On en a déjà parlé avec Olivier,
mais qui est très, très chaud. Toutes les contrefaçons.
Reco micro. Au micro, on fait notre reco. Écoutez-la illico presto. Retrouvez toutes les recos sur la page Notion du podcast Le Café de l'e-commerce en lien dans la description. Et la reco de la semaine, quelle est-elle, Adrien ?
C'est un article sur un site qui s'appelle The Good Goods. Et j'ai trouvé l'article intéressant. Il se lit en 3-4 minutes. C'est très, très rapide. Et le titre de l'article, c'est « Reconnaître le greenwashing, le guide ultime pour ne pas se faire avoir ». Et la raison pour laquelle j'ai gardé cet article, au-delà du fait qu'il soit très bien écrit, que c'est très simple à comprendre, il y a des bullet points, c'est en gras, souligné, etc. Donc, ça se scanne très vite. C'est qu'il y a des exemples concrets. Et ça, j'aime tellement, parce que c'est tellement facile de mettre des infographies et des grands conseils à 2 balles. Là, ils te donnent des exemples. Et donc, je vous invite vraiment à le lire, parce qu'ils expliquent ce qui se fait, ce qui est propre, ce qui n'est pas propre, c'est quoi le greenwashing, comment le reconnaître. Et je voulais te citer une phrase, si ça te va, et j'espère que ça vous donnera envie d'aller découvrir l'article. Alors, je te cite, c'est comment reconnaître justement, enfin, un des points, c'est aller dans le détail de comment reconnaître le greenwashing. Un des grand classique du greenwashing est l'effet halo. Il s'agit de verdir l'image d'une marque en déployant de gros efforts de communication sur une activité éco-responsable représentant une infime partie de son activité globale. Il s'agit bien souvent des collections dites green, conscious, earth, des plus gros mastodontes de la fast fashion. Ces initiatives pourraient être vertueuses si elles s'accompagnent d'un changement fondamental des modèles économiques de ces marques, ce qui pour l'instant n'est pas démontré. Donc ça, c'est une manière de détecter le greenwashing. Ensuite, il t'explique, il te balance du H&M, du Zara. Enfin, il a pas de problème pour te donner des exemples pratiques ou de condamnations qui ont été avérées. Donc voilà, un article à lire. Et pareil, que vous soyez dans le green ou pas, c'est de la culture générale et je trouvais ça très intéressant. En tout cas, moi, j'ai plutôt pris plaisir à découvrir cet article.
Le panier surprise, c'est la fin de l'émission, on relâche la pression. La vie, c'est comme un panier surprise, on ne sait jamais sur quoi on tombe. Ce qui est sûr, c'est qu'on se marre et qu'on se marre bien. Le panier surprise, c'est la rubrique des jeux autour du e-commerce et du digital. Et cette semaine, on joue avec un French Connection. Adrien, tu nous rappelles les règles ?
Je te donne des mots et tu dois trouver qu'est-ce qui lie tous ces mots, tous ces concepts. T'es prête, Laetitia ?
Je suis prête.
Alors, je pense que les auditeurs, il y en a certains qui vont trouver très, très rapidement. C'est pas facile. C'est parti. Quoi, le chien ?
Quoi, le chien ? Je comprends rien du tout.
Brandy, le renard.
Denver, le dernier dinosaure.
Flo, l'écureuil.
Ouais.
Max, la mule. Blaze, le loup. Happy, le lynx. Cody, l'ours. Claudie, mais ça, la chèvre.
Vas-y, ouais.
Non, vas-y, tu l'as.
Vas-y.
Astro, continue. L'explorateur.
Ah, oh, ça me dit quelque chose, Astro.
Einstein, le génie.
Non, mais attends, c'est des noms de produits ou de.
Bah, je sais pas, je vais pas te dire ce que c'est. Sinon,
bah, Einstein, c'est Salesforce.
Bravo. Et bah, c'était ça la réponse. Ce sont toutes les mascottes de Salesforce. Ils okay, en ont voilà. Un paquet. Et effectivement, toutes celles que je t'ai. Tous ces petits noms, ces petits noms et ces animaux sont des mascottes. Et la dernière, c'est des Sassy. C'est l'historique, c'est une sorte de macaron. Et en fait, donc ouais, bon, il ouais, faut vraiment être dans l'écosystème Salesforce pour voir ça. Et ça m'a fait sourire parce qu'ils ont lancé un nouveau. Nouvel animal, c'est Flo l'écureuil, c'est le dernier de la galaxie de toutes les mascottes Salesforce. Il y a quand même des gens qui sont complètement passionnés, qui collectionnent ça. Alors, j'ai pas trouvé de compte Instagram, mais je suis sûr qu'il y a des comptes dans tous les sens, des gens qui suivent ça. Et Flo l'écureuil, c'est pour l'automatisation, il me
Adrien,
semble.
Mais Adrien, toi qui étais un ancien de Salesforce, ça a toujours été comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est assez récent.
Non, ça a toujours été comme ça. Et puis,
2015,
le Astro, les animaux, en fait, à la base, c'était Astro, et puis ensuite, ils l'ont décliné dans plein de trucs. C'est un peu comme Martine va à la plage, etc., à la montagne. Et ensuite, ils se sont dit, bon, okay. C'est bien Astro, mais l'explorateur, il explore plein de trucs, mais il faudrait avoir d'autres trucs. Et puis, ils ont commencé à balancer plein d'autres noms. Et quand ils rachetaient des boîtes, après, ils le mettaient leur, un animal derrière. Donc, c'était plutôt sympa. Et je trouve ça bien. Je trouve ça rafraîchissant. Et puis, du coup, ça crée la communauté, etc. Donc, voilà. Donc, le dernier petit nez, c'est Flo l'écureuil. Et puis, tout cela, Max la mule, bah, c'est MuleSoft. Vous retrouverez derrière, c'est tous des produits Salesforce, mais c'est moins sexy d'avoir des produits. Donc, quand c'est accompagné d'un petit animal mignon, ça fait toujours plus plaisir pour dépenser des centaines de milliers d'euros par an.
Voilà, c'est dit. Allez, bim. Bon, j'ai gagné. Ça aussi, c'est dit.
T'as gagné ou pas? Ouais, t'as gagné.
Presque.
Ouais, bon, on va dire que t'as gagné. Bravo à toi.
Merci de nous avoir suivis tout au long de cet épisode 153. Si vous avez aimé l'épisode, le meilleur moyen de le faire vivre, eh bien, c'est de le partager et de nous envoyer des étoiles et des mots doux. Adrien, on se retrouve très bientôt, pas la semaine prochaine, mais dans quelques semaines. LCDE prend des vacances.
Il y aura des épisodes spéciaux pendant le break. À très vite tout le monde, à très vite Laetitia. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Est-ce que je peux dormir chez toi ce soir? J'ai perdu ma mère ce matin.
Elle est morte?
Non, je l'ai perdue. C'est-à-dire que je l'ai perdue, quoi. Elle était là et pouf, je l'ai perdue.